France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La Drôme est à l'honneur toute la semaine. Notre inventaire non exhaustif d'initiatives dans ce département passe aujourd'hui par Romans-sur-Isère. C'est là qu'est née, il y a 12 ans, une marque de jeans devenue depuis l'un des fers de lance des vêtements made in France. Elle s'appelle 1083. Beaucoup de questions pour le patron de cette entreprise. Peut-on vraiment croire à une relocalisation de la filière textile? Comment imaginer concurrencer les géants de la fast fashion, de la mode jetable, mais aussi pourquoi a-t-il fait récemment de la musique avec ses machines? Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Bonjour Thomas Huriez.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de 1083. Alors 1083 kilomètres, c'est la plus longue distance pour traverser la France en diagonale, c'est ça?
L'hexagone précisément, puisque ouais, la France est riche d'outre-mer. Mais oui, effectivement, c'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'hexagone. Ces deux villes sont Menton au sud-est et Porspoder, un petit village au nord de Brest. Et notre démarche, c'est de fabriquer des jeans de proximité, produire localement, consommer localement, et donc fabriquer des jeans à moins de 1083 km de chez vous, où que vous habitiez dans l'Hexagone.
Voilà, où que j'habite, j'ai la garantie que mon jean a été fabriqué à moins de 1083 km de chez moi. D'où viennent vos matières premières?
Alors, la matière première, elle peut être locale, mais c'est pas le plus facile. Quand c'est local, c'est du lin, c'est du chanvre, c'est du coton recyclé. Quand c'est pas des cultures locales, comme le coton, c'est du coton bio qui vient de Tanzanie, un pays qu'on a choisi parce qu'il est naturellement très bien irrigué en eau, et donc c'est un coton pluvial, où il n'y a pas d'irrigation artificielle.
Votre entreprise 1083 compte deux sites de production. L'un est à Romans-sur-Isère, le site historique. L'autre dans les Vosges, à Rupt-sur-Moselle. J'aimerais qu'on entre dans le détail, Thomas Huriez, parce qu'on ne réalise pas collectivement ce que nous portons. Quelles sont les étapes de la fabrication d'un jeans?
Là, on a parlé de la culture du coton. Ensuite, on va filer ce coton. Donc ça, c'est en France ou en Italie pour notre part. Ensuite, on va teindre une partie des fils pour faire le fil extérieur du jean qui est bleu. L'intérieur reste blanc. Donc cette teinture se fait en France ou en Italie selon la technologie. En gros, les jeans qui ne se délavent pas, on peut les faire en France. Mais les jeans qui se délavent, on ne sait plus les faire en France. Donc le fil, on le teint en Italie. Et à partir de là, tout est fait à 100% en France. C'est-à-dire qu'on va tisser, assembler les fils, ennoblir, c'est-à-dire traiter le tissu, puis couper, coudre et éventuellement délaver le jean pour les modèles qui ne sont pas bruts. Et tout ça se fait en France, c'est grâce à ça qu'on est certifié Origine France Garantie.
Donc ça n'est pas 100% français. L'Origine France Garantie entre dans le détail évidemment de la production, mais il y a certaines parties de la fabrication de votre jean qui ne peut pas être localisée.
Oui, en fait, sur un jean qui coûte entre 100 et 150 euros, il y a 3 ou 4 euros qui ne sont pas dans l'économie française, l'importation de matières premières principalement, ou du fil si c'est en Italie. Tout le reste est local. Donc en fait, tout ce qui est 100% de ce qui peut être fait en France est fait en France. Mais quand on n'a plus la technologie, on le relocalise au fur et à mesure, mais le temps d'y arriver, eh bien effectivement, on importe encore certaines choses. Mais pour la matière première, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on est un tel pays producteur de coton recyclé à travers tous les vêtements qu'on surconsomme, qu'en réalité, on peut devenir vraiment un grand pays producteur de coton si on industrialise massivement la collecte et le recyclage de vieux vêtements pour devenir producteur de coton recyclé en France.
Et d'ailleurs, vous pratiquez l'économie circulaire chez 1083 en recyclant les vieux jeans, uniquement les vôtres, j'imagine?
Non, pas du tout. Non, on n'a pas de chapelle. Tous les jeans que nous ramènent nos clients, quelle que soit la marque, c'est des gisements de coton, du coton local. C'est une manière de se prémunir du réchauffement climatique, c'est une manière de se prémunir la hausse des prix du coton qui peut intervenir sur le marché, maîtriser notre propre filière d'approvisionnement, c'est sécuriser aussi notre modèle économique, c'est consommer encore plus local. Et en plus, en termes d'impact économique, en termes de création d'emplois et d'impact carbone, c'est extrêmement vertueux, puisqu'un jean du commerce lambda, ça coûte 32 kg équivalent carbone. Un jean en coton bio 1083, c'est 15, donc c'est la moitié. Oui. Et un jean 100% français en coton recyclé, comme on en commercialise aussi, lui, c'est 7 kg carbone. Donc, c'est-à-dire que c'est 4 fois moins. On fait moins 75% de CO2 juste en consommant local, avec un jean qui a l'apparence d'un jean normal.
Donc vous mélangez du coton français avec du jeans recyclé, récupéré pour ne pas être jeté.
Absolument. Donc ça, aujourd'hui, c'est 2% de notre offre. Oui. Tout le reste, c'est 100% bio, 98% bio, mais ça, c'est 2%. Et c'est quelque chose qu'on cherche à développer en continuant d'industrialiser de plus en plus le recyclage des vieux jeans et de nos chutes de confection.
Comment se porte votre PME aujourd'hui, Thomas Huriez, avec la flambée des prix de l'énergie, avec la concurrence féroce des enseignes de fast fashion? Les années 2022-2023 en particulier ont été difficiles pour 1083. Aujourd'hui?
Ouais, ça va mieux. Mais en effet, on a connu 10 ans de croissance de 2013 à 2023. Puis on a des fournisseurs qui ont fermé, ce qui a mis en grande difficulté nos capacités de production. Comme on a moins produit, on a moins livré, donc on a moins facturé. Notamment nos 100 revendeurs partout en France ont souffert de nos blocages de production. On a amélioré tout ça en 2023, mais comme on a eu un mauvais bilan, du coup, on a perdu des financements qui ont complexifié nos achats de matières premières. Donc encore un net déficit à cause de ça. Et là, depuis 2025, on sort la tête de l'eau. Il y a toujours des petits enjeux de trésor, mais qui sont passagers et qui sont vraiment derrière nous aujourd'hui. Et on voit l'avenir de manière positive, même si le contexte est quand même assez anxiogène. Mais nous, on se dit que comme il y a 70 millions de jeans qui sont consommés chaque année en France, c'est à peu près un par an et par personne, on se dit que même si le marché se rétracte de 10% ou de 20%, ça fait quand même 50 millions de jeans qui resteraient achetés en France. Et nous, leaders du jean français, on en vend 50 000.
Donc quand 50 000 sur 70 millions, voilà. C'est une toute petite goutte d'eau dans l'océan.
Exactement, donc on doit garder un esprit de conquête, même si la conjoncture n'est pas simple. Et en plus, ce qu'on fait est vertueux, c'est vertueux pour l'environnement, c'est vertueux pour l'emploi. On a énormément de personnalités, de clients qui parlent de nous. Donc en fait, on est tracté par notre communauté et ça, ben, ça encourage, même quand on a connu des difficultés comme il y a un an ou deux.
Que répondez-vous à ceux nombreux qui disent que c'est beaucoup trop cher d'acheter un jean fabriqué en France ?
Alors, je leur conseille de regarder les fesses des gens, puisqu'en regardant les fesses des gens, vous verrez plein de jeans de marque.
Ouais.
Et en fait, l'idée qu'on puisse tous acheter des jeans à 10, 15, 20 euros et des jeans par dizaines parfois pour certains consommateurs, ça fait dépenser beaucoup d'argent. Quand on voit les milliards d'euros que fait la fast fashion, on s'aperçoit qu'elle ne fait pas faire d'économie, elle fait surconsommer des petits prix. Si on comparait notre activité dans le jean au vin, par exemple, c'est comme si on préférait acheter 20 bouteilles à 1 euro plutôt qu'une bouteille à 20 euros. On sait vivre le goût de la qualité dans notre consommation de tous les jours, pour le vin, pour la musique, pour quelle que soit votre passion. Dans la mode, on sait aussi le vivre, puisque plein de consommateurs font le choix de la qualité, ou en tout cas de ce qu'ils perçoivent de la qualité en achetant de la marque. Mmh. Nous, on est au même prix que les jeans de marque.
Donc, et quand vous dites jeans de marque, c'est par exemple une grande enseigne américaine très célèbre pour ses jeans.
Oui, il y en a plein des jeans entre 80 et 150 euros, c'est nos prix. Donc nous, on dit juste que si vous êtes prêt à dépenser 80 euros, ou 100 euros, ou 150 euros, en achetant 4 jeans de fast fashion ou en achetant un jean de marque, ben on vous propose d'acheter un jean français.
L'un des leviers pour que le grand public ait un réflexe d'achat made in France, c'est sans doute de valoriser les métiers. On va écouter un peu de musique, Thomas Huriez, car vous avez eu cette idée étonnante pour valoriser le personnel de votre entreprise, faire chanter les machines. Et ça donne une symphonie pour piano, basse et machine à coudre. Le vol du bourdon revisité. Vous nous décrivez ce qu'on entend là ?
Oui, donc au piano c'est Odiès Michel, une pianiste romanaise professionnelle. L'arrangement a été fait par Louis Domalin, qui est un percussionniste aussi dans l'environnement d'Odiès. Et tous les bruits que vous entendez derrière, ce sont nos couturières, Véronique, j'en passe, qui on a capturé les sons, on a fait un mixage et on a fait un clip de tout ça. Pour mettre en parallèle finalement la dextérité qui est nécessaire et à la pratique de la couture et à la pratique du piano. Et en fait, cette dextérité qui est associée à l'excellence en piano, cette répétition qui est même cool en musique quand on va en répète, eh bien elle est mal vue à l'usine. Injustement, parce que quand on fait visiter nos ateliers, les gens s'émerveillent de nos savoir-faire, sauf qu'ils l'oublient quand on parle du métier. Et donc c'est pour ça qu'il nous paraissait important de reconnecter émotionnellement les deux univers. Valoriser la répétition comme fondement de l'excellence, c'est la base de la pédagogie, c'est la base d'un grand cuisinier, c'est la base d'un bon sportif, c'est la base d'un bon musicien, c'est la base aussi d'un bon couturier.
D'ailleurs, on ne connaît pas les noms précis de ces métiers.
Alors ça, c'est un drame dans l'industrie, c'est qu'en fait, dans les bureaux, ça ne nous viendrait pas à l'esprit d'appeler tout le monde employé. Mais à l'usine, ça gêne aucun industriel de remplacer tous les vrais noms de métiers. Chez nous, on a des tisseurs, des ourdisseurs, des couturiers, des réparateurs, des techniciens. Et par le mot universel d'opérateur, c'est assez terrible pour transmettre, comment dirais-je, l'amour du métier, pour donner du cœur à l'ouvrage, d'être anonymisé derrière un mot générique. Et nous, on se bat pour que chaque métier retrouve son nom, de sorte que chaque ouvrier, chaque ouvrière voit sa valeur ajoutée, sa place dans cette chaîne de production.
Quel effet d'ailleurs a eu ce clip au sein de votre personnel chez 1083 ?
Alors d'abord de la circonspection. Parce que quand vous avez
on les voit un peu les regards dans le clip. Il y en a une qui se moque un peu de la pianiste au milieu de l'atelier.
Ouais, parce que quand vous mettez un piano à queue dans un atelier de couture, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette idée encore? Et en fait, dès que Audliès a commencé à jouer, bon, on a bien senti que tout le monde avait le sourire et puis ça faisait des frissons. Et puis quand ensuite on a sorti la vidéo sur le, vous pouvez la retrouver sur notre site internet. Et ben en fait. Tout le monde a ressenti de la fierté, puisque du coup, c'est assez rare qu'on mette sur le même plan des métiers artistiques et des métiers ouvriers. Or, c'est la même racine. L'ouvrier, l'ouvrage, l'œuvre, c'est le même mot. Et en fait, il était important de le rassembler dans un truc émotionnel qui nous touche. Parce qu'en fait, la relocalisation, c'est bien de s'en convaincre, mais on s'en fait d'autant plus convaincre qu'on est touché. Et nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est à toucher.
La relocalisation qui a pris un sacré coup dans l'aile ces dernières semaines avec l'arrivée fracassante de Chine et ce contrat signé avec le BHV. Je pense aussi à cet affichage environnemental textile qui est entré en vigueur en octobre, inspiré du Nutri-Score pour le secteur agroalimentaire, mais qui n'est pas obligatoire, donc à quoi bon? Vous parvenez à rester optimiste pour la relocalisation, Thomas Huriez?
Disons que j'ai créé ma marque de jean il y a 12 ans. Il y avait zéro jean vendu en France qui était fabriqué en France en 2013. Là, avec nos confrères, on doit être à 100, 150 000. C'est beaucoup mieux. Donc, moi, je le fais pas pour qu'on y arrive. J'en sais rien si on va y arriver. Et avec mes petits bras, je peux pas grand chose. Par contre, le vivre, partager ces émotions-là, reconstruire quelque chose de positif et le partager avec d'autres confrères, Origine France Garantie ou de notre filière ou d'autres acteurs du textile français qui y croient, c'est réjouissant. Ça remplit une vie. Donc, en fait, je ne le fais pas pour y arriver. Mais par contre, tant mieux si on y arrive. Et donc, j'y crois.
Je ne le fais pas pour y arriver, c'est un sacré mantra, ça.
Mais je sais, ça en tout cas, ça me rend indécourageable.
Merci beaucoup, Thomas Huriez. 1083, entreprise basée à Romans-sur-Isère, dans la Drôme. Bonne journée.
Merci, vous aussi.
Autre initiative dans la Drôme, Delphine, une auditrice, nous a envoyé ce message. Je voudrais vous parler d'une amie qui était professeure de philosophie dans un lycée de Valence et qui a dans le même temps réussi à devenir accompagnatrice de moyenne montagne. Elle s'appelle Emmanuelle Mandon et elle organise des randophilos autour de Cray, là où elle habite. Elle est vraiment dynamique, pleine d'idées et enthousiaste, écrit encore cette auditrice. Les randophilos sont organisés avec l'UPVD, Université Populaire du Val-de-Drôme, association d'éducation populaire basée à Cray, là encore, qui organise des conférences et des ateliers pratiques dans plein de domaines. Philosophie donc, mais aussi histoire, santé, artisanat et j'en passe. Les randophilos de l'Université Populaire du Val-de-Drôme, c'est à Cray, dans la Drôme. J'en profite pour vous remercier pour vos très nombreux messages. Continuez à nous écrire, bien sûr, notamment pour signaler des gens géniaux et des initiatives remarquables dans le 64, les Pyrénées-Atlantiques.